OK, ça fait longtemps qu'on a fait ça, des petites vites marketing avec Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa. Salut Luc!
Bonjour Louis-Philippe.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi.
Good. On va commencer avec une étude sur les influenceurs.
Oui, qui est paru dans le Wall Street Journal, donc qui n'est pas le dernier venu, dans lequel on apprend essentiellement deux ou trois choses. Un, ça peut coûter pas mal cher utiliser des influenceurs, bon, souvent en fonction, bien sûr, du nombre de personnes qui les suivent. Ça, c'est sans surprise. Un peu à l'instant, finalement, des codes d'écoute à la radio ou à la télévision, les tirages des journaux, des magazines. C'est un peu le même principe de fond. Par exemple, entre 50 000 et 500 000 personnes qui vous suivent, ça peut coûter entre 5 000 et 25 000 $ pour avoir un petit message comme quoi on n'est pas si mal. Dans le cas des super influenceurs ou ceux qui sont à plus de 1 million de personnes qui les suivent, là, ça peut se rendre jusqu'à 100, 150 et 200 000 $. Alors, d'une part, ça coûte beaucoup de sous, mais là où l'étude devient particulièrement intéressante, c'est bien sûr qu'on s'est posé la question, est-ce que ça marche? Et là, quand on jette un coup d'œil puis on commence à gratter, on fait deux ou trois constats. Un, l'engagement, là, les réactions des gens. Là, tantôt, faire un like, hein, j'apprécie ou j'aime pas, ou faire un message et tout ça, on s'aperçoit que en l'espace d'un an, tout ça réduit de moitié. C'est bien que tu as un paquet de marques dans l'industrie du voyage, de l'alimentation, de la mode, de la beauté, du sport également, qui sont en train de se poser la question. Est-ce que finalement, ça rapporte?
Et la réponse, c'est non, si je me fie à ce que tu me dis. Donc, il y a comme un petit effet nouveauté au début, mais ça s'essouffle rapidement, Luc?
Oui, puis je pense que la morale de l'histoire ici, c'est qu'il y a des bons vieux outils qui existent depuis des décennies, communément appelés médias, hein, les médias traditionnels, entre autres, pour ne pas les nommer, qu'il ne faut pas oublier. On est un petit peu dans cette logique-là actuellement où tout ce qui est nouveau a l'air meilleur. Hein? Toujours plus beau dans la cour du voisin aussi au début quand c'est nouveau. Puis là, on est en train de gratter un petit peu plus, puis on se dit... Et là, tu as un exemple, entre autres, dans l'article de quelqu'un qui dit « On a lancé une entreprise, nous, en focusant exclusivement sur les influenceurs. » Et au bout d'un certain temps, on s'est aperçu que le retour sur l'investissement, tiens-toi bien, Louis-Philippe, il était à peu près de zéro. Alors, cette personne-là mentionne sans surprise, qui est dans l'industrie du marketing, peut-être qu'on a trop concentré nos efforts sur un truc et on a peut-être oublié qu'au fond, ce qu'on appelle communément le marketing 360, là, il faut être capable de couvrir l'ensemble de la gamme et que se concentrer comme ça exclusivement sur un aspect ou un outil de communication, c'est peut-être risqué.
Ben, je vais prêcher pour ma paroisse. Maudite bonne nouvelle, Luc, d'entendre ça aujourd'hui.
Donc, dans le Wall Street Journal de cette semaine.
Commerce au détail, Costco, qui est maintenant deuxième au Canada.
Oui, et c'est un exploit remarquable. Costco, je te rappelle, dont le siège social canadien est à Ottawa. C'est une nouvelle remarquable parce qu'il fallait dépasser de sacrés gros joueurs. Metro, Sobeys, qui est IGA, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec l'industrie de l'alimentation. Walmart, évidemment. Costco, qui est devenu deuxième. Et le premier joueur, sans surprise, c'est Loblaw, Provigo, Maxi et quelques pharmacies également des chaînes. Alors, ils ont réussi à dépasser Walmart.
OK, donc là, c'est uniquement pour l'alimentation, Luc?
Oui, on se concentre dans le domaine de l'alimentation, les détaillants du secteur de l'alimentation. Et c'est évidemment remarquable. Je voyais les chiffres de Costco, ils ont 10 millions de cartes de Costco, d'abonnés au Canada, ce qui est quand même fantastique. Et récemment, je te rappelle qu'ils ont ouvert en Chine un Costco et à l'intérieur d'une journée, ils avaient vendu des dizaines de milliers de cartes. Ils ne pensaient pas, bien sûr, avoir un succès aussi rapide. Comme quoi, un concept, somme toute, assez étrange. Hein? Si je t'avais décrit un jour, je t'arrivais arrivé dans ton bureau en disant « J'ai une maudite bonne idée, on va créer un détaillant. » Ce détaillant-là va demander des sous pour rentrer dans le magasin.
Faut que tu payes
il va regarder ton panier.
Mais oui.
Oui. Il va regarder le panier en sortant. Il va l'examiner. Les étagères vont être sans flafla. Et souvent, tu vas prendre ça directement de la boîte ou de la caisse. Il va avoir des fils. Le panier d'épicerie va être absolument gigantesque. Puis tu ne pourras pas acheter de petites quantités. En toute honnêteté, tu m'aurais probablement dit, je ne sais pas, j'ai mes doutes. Et là, ce qu'on réalise, évidemment, dans ce cas-ci, c'est que manifestement, ça fonctionne très, très bien.
Oui, bien, il y a comme quelque chose de subliminal là-dedans. C'est que peut-être que les gens se disent, bien, vu qu'il faut que je paye pour y aller, quand je vais y aller, je vais en prendre pour la peine.
Oui, aussi. Et le panier d'épicerie, je te rappelle toujours, est assez important. Alors, le défi, c'est aussi de le remplir, là. Mais le concept, au fond, nous rappelle qu'à la fin, faire des bonnes affaires, même à grand déploiement, là, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, beaucoup de monde.
Bon, ça, c'était pour l'alimentation au Canada. Parlons maintenant de la liste des entreprises les plus puissantes au monde.
Oui, Interbrand 2019, qui est un joueur bon qui annuellement comme ça va publier sa liste des entreprises les plus pesantes dans un certain nombre d'industries. Je te donne, on ne fera pas la liste bien sûr au complet, mais je te donne les trois joueurs, les trois premiers joueurs cette année. Sans surprise, il n'y a personne qui va dire je connais pas là, j'avais jamais entendu parler de ces entreprises là. Bien sûr, sans surprise, on parle d'entreprises qui sont présentes à l'échelle mondiale. La première, c'est Apple. Apple qui va lancer, je te rappelle, au début novembre, son Apple TV+. Déjà au moment où on va lancer ça, et c'est ça qui est remarquable dans le cas d'Apple, c'est qu'il y a tellement de gens qui possèdent déjà le téléphone, qui possèdent déjà des produits Apple, qu'instantanément, on va rejoindre 200 millions d'abonnés. Vois-tu comment ça va vite, hein? Alors, au début, on va offrir ce service-là à un prix extraordinairement petit. Ça va permettre à Apple de mettre les pieds dans le marché d'Hollywood. Puis on parle de 4,99 là. Alors, ce serait surpris que beaucoup de gens se plaignent de ce côté-là. Le deuxième, c'est Google. Google, et là aussi, il y a une étude fascinante qui est sortie cette semaine là-dessus. Savais-tu, Louis-Philippe, que quand tu cherches quelque chose sur Google, Bloomberg a révélé que dans 29 cas sur 100, alors, ils ont fait l'expérience pour toutes sortes d'industries, toutes sortes de mots-clés également. Google va te donner une réponse qui renvoie à un produit de Google.
Ben oui. Alors, Google prêche pour sa paroisse.
Oui, autrement, assurément, c'est ça. Alors, on l'a fait dans le secteur des nouvelles. Reconnais avec moi que le lien n'est pas direct là, avec Google, mais on l'a fait dans le secteur des nouvelles. On a cherché, par exemple, une calculatrice. Google t'a renvoyé un site qui est lié à Google, et on l'a fait pour la NBA, le sport professionnel aussi, même chose qui s'est passé. Et dans 12 cas sur 100, ce sont directement des produits de Google qu'on t'invite à consommer. Alors, il faut comprendre la différence ici. Dans 29 cas sur 100, c'est des sites liés à Google, mais c'est peut-être pas nécessairement des produits Google. Mais dans 12 cas sur 100, c'est directement quelque chose qui est relié et qui permet à Google de faire des sous. Alors, ça peut être une pub, etc. Ça nous rappelle donc qu'au pays des engins de recherche, ce qu'on te montre, la fenêtre, là, la réponse qu'on te donne à ta recherche, c'est pas une réponse
objective. Oui.
C'est la réponse de l'outil que tu utilises. Alors, ils ont fait le même type d'exercice avec Bling, le même type d'exercice avec d'autres outils aussi, Facebook, puis sans surprise, tu devines qu'on te renvoie
nécessairement
aux mêmes plateformes.
Ben oui, on n'est pas tellement surpris, effectivement. Et en terminant, Luc, un peu de cinéma pour nous parler du film Le Joker, très controversé, mais très payant aussi.
Oui, et là, on a les derniers chiffres à l'échelle mondiale. On est rendu à 744 millions de dollars, ce qui est un succès remarquable ici, en exploitant des thèmes qui sont éternels, la solitude, bon, hein, le sentiment aussi que tout va mal, etc. Souvent des thèmes que Warner Bros., parce que c'est Warner là, qui possède les droits de Batman, et le Joker, évidemment, est dans cette famille-là, mais ce sont tous des thèmes que Disney, généralement, ne peut pas exploiter avec autant de profondeur, pour une raison très simple.
C'est moins familial.
À la famille. Ouais. C'est ça. Alors, ça permet à Warner de faire quelque chose que pourrait pas faire Disney ici. Mais là où ça devient intéressant, c'est que en sortant du film, pour ceux qui l'auraient peut-être vu, ce que vous allez constater si vous avez l'œil le moindrement entraîné, c'est que contrairement à tous les autres films de super-héros, il n'y a à peu près pas d'effets spéciaux. Et c'est ça qui coûte quelque chose, hein, qui coûte cher dans les films de super-héros. Souvent, là, quand tu lances le film, tu as déjà une facture de 200 millions de dollars d'effets spéciaux à payer. Alors, dans ce cas-ci, là, au total tout, le film a coûté 62 millions, ce qui est rien. Je comprends qu'il y a des gens qui nous écoutent en disant 62 millions, c'est pas rien. Là.
Mais si on compare ça aux grandes productions, c'est pas grand-chose.
C'est pas grand-chose. On n'est pas très loin de l'autre industrie qui est pas trop loin. Là, c'est l'industrie du film d'horreur, où ton décor, c'est quoi? C'est un gars avec un casque de gardien de but.
Ouais.
Un petit peu genre. Et puis, une scie à chaîne. Là, on est un peu, hein? c'est pas des films qui coûtent très... Puis l'acteur, bien évidemment, comme il y a un casque, il peut pas demander 5 millions.
Oui. Ce qui est moins vrai dans le cas du Joker, c'est vraiment la performance de l'acteur principal qui fait toute la différence. Je l'ai pas vu, mais c'est ce que tout le monde dit.
Puis qui a déjà été dans la classe 1, mettons, A1 des acteurs, puis qu'il y a eu bon toutes sortes de choses qui sont arrivées dans sa vie qui font que on le voyait moins récemment, là. Puis là, soudainement, il revient comme ça, puis il se révèle, remarque, à bien des égards, c'est un rôle qui lui va très, très bien, là. Alors, c'est ce qu'on vient de réaliser dans le cas de Warner, et c'est pour ça que je t'annonce officiellement qu'on va lancer comme ça toute une série de films de ce type-là dans l'industrie du super-héros dans les prochaines années, où on va dire, attends un petit peu, peut-être on peut-tu enlever un petit peu d'effets spéciaux? on peut-tu travailler un petit peu plus l'histoire? Ça va nous coûter moins cher. Puis à la fin, la différence, ben, c'est 744 millions moins 62 millions. Si bien qu'il y a des gens qui pensent actuellement que le film de super-héros qui va générer le plus de profit de l'histoire, c'est pas un film de Batman, c'est pas un film de Spider-Man, c'est pas un film d'Iron Man, c'est le Joker.
Incroyable. Alors, évidemment, parce que la zone de profit arrive plus rapidement, donc c'est peut-être pas les revenus les plus imposants de l'histoire, mais en termes de profit, ben ça devient un film extrêmement lucratif. Merci beaucoup, Luc.
Merci, bonne journée.
Salut.
Vous trouvez ça comique?
Murray, une toute petite requête.
Ouais.
Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker ?